Boker Tov, Shavua Tov, il y a Navi Zahour la Tov, tous les Tov, tout ce que vous voulez. Et j'ai envie de vous dire que ça y est, j'ai envie de vous dire qu'on est arrivé à cette époque où la Kabbalah eh bien, va prendre un essor absolument incroyable. Et bien que, bon, ça va, on a, je sais pas, David, on a combien de thèmes cours là?
Je pense qu'on est au 14 ou au 15.
Bon, c'est-à-dire qu'on a déjà quand même pas mal d'heures de vol derrière nous. Il n'empêche que c'est à partir de maintenant, au niveau historique, que la Kabbalah va avoir, j'allais dire, une influence décuplée dans le monde du judaïsme. Et donc, ce matin, nous allons parler de la fin du 15e siècle, début du 16e. Et non, on n'est pas encore dans le Harizal. Le Harizal, ça sera dans un ou deux cours. Alors évidemment, quand on parle Kabbalah, on parle du Hari. Mais non, pas encore. Là, on est, je ne vais pas dire dans la génération d'avant, parce que bah, ce n'est pas vraiment la génération d'avant, ils se sont tous connus, mais on est dans ce qui va mettre en place eh bien, cette réalité de la Kabbalah qui va prendre des dimensions incroyables. La première personne que j'aimerais évoquer avec vous en cette fin de 15e siècle, c'est une femme. Une femme, je ne sais pas si elle était kabbaliste ou pas, on n'en sait rien, je n'ai pas d'infos là-dessus, mais en tout cas, elle va faire un acte directement dicté par la Kabbalah, puisque pour elle, le retour d'Israël sur sa terre et la possibilité de donner aux Juifs un endroit où ils peuvent se poser en terre d'Israël sans craindre ni les représailles ni la Parnassa, eh bien, cette dame, elle s'appelle Donna Grazia Nassi. Elle est la tante du duc de Naxos, Don Yosef Nassi, qui vient d'être catapulté, qui va être catapulté comme étant le premier ministre de l'Empire ottoman. Cette Donna Grazia Nassi, eh bien, elle va acheter la ville de Tibériade, l'exonérer d'impôts et permettre aux Juifs de venir s'y installer. Et dans le pas de Tibériade, il y aura Tzfat après, et ça va donner l'essor de Tzfat qu'on connaît dans le XVIe siècle. Mais ce n'est pas tout. Dans cette fin du XVe siècle, il se passe quelque chose avec un monsieur en particulier. Rappelez-vous, depuis le début de notre étude, on explique que, alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a tendance à séparer les rabbins du Niglé et les rabbins du Nistar, de dire que le Posek Halakha, c'est le Posek Halakha, et le Kabbaliste, c'est celui qu'on va voir pour une bracha, eh bien, depuis le début de notre étude, on dit que ça n'a jamais été comme ça. Au contraire. Les plus grands kabbalistes ont toujours été les plus grands poskei à halakha, puisque si la recherche du kabbaliste, c'est dévoiler l'unité du créateur, eh ben, il ne peut pas faire l'impasse au niveau de la halakha, évidemment. Et donc, eh bien, le premier personnage que je voudrais qu'on évoque ensemble, eh bien, va être un homme extraordinaire, alors qu'il naît en 1474. Ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à son époque, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose avec cet homme qu'on appelle Ma'ari Berav. Mise Ma'ari Berav, eh bien, on parle de Rabbi Yaakov Berav. Berav, ça veut dire, bah, ce n'est pas très clair. Est-ce que c'est un nom qui le... on va dire, qui symboliquement le met en rapport avec Rav, le Amora d'il y a près de 1000 ans, ou alors Rabbi Yaakov Berav, c'est-à-dire que son père était déjà le grand rabbin, ou alors est-ce que ça veut tout simplement dire qu'il vient de la famille de Rabbi Yitzhak Abouav, qui était également son Rav. Bekitsour, pas très clair pourquoi il s'appelle Berav, mais ce n'est pas très important. Ce qui va être fondamental, c'est ce qui va se passer à son époque. Alors évidemment, il vient des Megourachés Sfarad, il vient de ceux qui sont expulsés du judaïsme d'Espagne. Et lorsqu'il arrive en Israël, il n'est déjà pas tout jeune, tout jeune. Ça veut dire quoi, pas tout jeune, tout jeune? Eh bien, d'abord, il va avoir 18 ans lorsqu'il arrivera d'Espagne en Afrique du Nord. Eh oui, c'est d'abord là-bas, au Maroc, que Rabbi Yaakov Berav va se faire un nom. Il est tout de suite reconnu comme étant un géant de la halakha, ça, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas encore tout de suite qu'il est connu au niveau de la Kabbalah. Il faudra attendre qu'en l'an 1510, eh bien, alors, il va d'abord partir de Maroc, il va aller à Tlemcen, il va aller en Algérie, ensuite, il va arriver en 1510, il va arriver en Égypte. Et c'est là qu'il va commencer un tout petit peu à se donner à la Kabbalah pour finalement arriver à Tzfat en 1524, et là, ça explose. Et là, ça explose. Mais de quoi on parle? Quel est le sujet principal de l'époque de Rabbi Yaakov Berav? Les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis près de, à l'époque de Rabbi Yaakov Berav, hein, je parle, depuis près de 1300 ans, il n'y a plus de Sanhédrin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de Sanhédrin? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus d'unité dans le peuple juif. Plus d'unité au niveau de la halakha, de la décision, de la direction que doit prendre Klal Israël. Chaque rabbin dans chaque communauté, eh bien, fait comme il l'entend et comprend comme il comprend. Résultat des courses, on a des Ashkenazim, des Sfaradim, des Edot HaMizrach, on va avoir des Yéménites, des Thémanim, chacun avec ses Machlokot. Vous allez me dire, c'est pas très grave, c'est pas grave, on a un tronc commun et dedans il y a quelques Machlokot. Eh bien moi je vous dis non, c'est très grave, parce que c'est justement dans les détails que les gens se séparent. Eh oui! Est-ce qu'un Ashkenaz et un Sépharad font Shabbat de la même façon? Mais non! Et il y a certains plats traditionnels Sépharad qui ne pourront pas être consommés par un Ashkenaz à Pessah. Certains plats traditionnels Ashkenaz ne pourront pas être consommés un Shabbat chez les Sfaradim parce qu'il faut les réchauffer et qu'on a un problème de plata. Bekitsour, les détails vont justement creuser les problématiques. Alors qu'au début du XVIe siècle, on a la possibilité de s'installer à Tzfat, Tibériade, on a dit, eh bien, il y a une idée qui commence à germer chez les rabbins d'Eretz Israël. Et pourquoi on ne recréerait pas le Sanhédrin? Hein? Ambiance! Pourquoi pas? Je rappelle que je parle du Sanhédrin et vous pouvez vous dire, mais attends, on est dans un cours de Kabbalah. Je rappelle que tu ne peux pas être au Sanhédrin si tu ne connais pas la Kabbalah. Donc, ce n'est même pas une question. C'est complètement dans notre histoire. Tu crois que le mec qui est au Sanhédrin, c'est juste un gadol de la halakha? Tshuva lo. Mi sheyoshev ba-Sanhédrin, il se doit de connaître non seulement Kol HaTorah Kula, mais en plus, il doit connaître aussi toutes les Chochmot et la Avodah Zarah des autres peuples. Zekatouv, noir sur blanc, dans le Rambam, Ilchot Sanhedrin. Donc, il est évident que si on parle de quelqu'un qui doit s'installer au Sanhedrin, il doit connaître la Kabbalah. Maintenant, le problème, il est le suivant. A priori, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de Sanhedrin? Pourquoi pas? Eh bien, pour une raison très simple. Pour être au Sanhédrin, il faut être un rabbin qui n'est pas seulement un rabbin, mais qu'il est un rabbin qui l'a reçu la smicha. Et je ne parle pas de cape, ni de couverture. C'est-à-dire, la smicha, c'est quoi? L'ismor? L'ismor, eh bien, c'est ce qu'on va voir que Moshe va faire à Yehoshua. Il a posé ses mains sur Yahushua, sur sa tête, comme on fait pour bénir nos enfants, et il lui a dit, Yalla, tu peux y aller. C'est ça la smicha. Et en fait, pour être dans le Sanhedrin, c'est-à-dire pour être légitimement celui qui prend la suite de Moshe Rabbeinu, eh bien, il faut être samour. Et la smicha se transmet de génération en génération. Le rabbin samour, il peut l'ismor autant d'autres qu'il a envie. D'accord ? Vous me suivez ? Ok ? Yofi. Le problème, c'est qu'à l'époque byzantine, eh bien, les Byzantins ont annulé la smicha. Il n'y a plus de smicha dans le peuple juif. Plus de smicha dans le peuple juif, vous comprenez ce que cela veut dire ? Ça veut dire que, eh bien, on ne peut plus avoir de Sanhedrin. On ne peut plus avoir de Sanhedrin puisqu'il n'y a plus de rabbin smouchim, donc c'est terminé. Alors, que faire à ce moment-là ? Eh bien, les amis, puisqu'on n'a plus de smicha, pendant près de 800 ans, eh bien, on a abandonné l'idée du Sanhedrin. On a abandonné l'idée du Sanhedrin. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné l'idée ? Parce qu'on s'est dit, on n'en aura plus jamais. Sauf qu'arrive le Rambam. Et le Rambam nous dit, attends ! Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de smouchim. Donc comment tu peux l'ismoch anashim acherim s'il n'y a plus de smouchim ? Mais le Rambam arrive dans les lois sur le Sanhedrin et nous dit, non, il y a quand même un moyen de l'echadesh la smicha. Ah bon ? Il y a un moyen de réamener la smicha ? Comment ? Eh bien, c'est très simple. Nous dit le Rambam, il suffit que tous les rabbins d'Israël s'unissent autour d'un autre, et tout le monde s'accorde pour dire « celui-là, c'est le patron », et ça lui confère automatiquement le statut de samour. Et à ce moment-là, eh ben, il peut l'ismor anashim acherim. Ben facile alors, il n'y a plus qu'à trouver un rabbin où tout le monde va être d'accord. D'accord ? C'est fastoche. J'imagine que tout le monde va être d'accord. Eh ben, pas forcément. Pas forcément. Tout le monde en Israël, dans le nord d'Israël, à Tiberia, à Tzfat, où il y a déjà énormément de Talmidei Chachamim qui se sont implantés, eh bien, vont se réunir autour de Rabbi Yaakov Berav. Et vont se mettre d'accord en l'an 1538 que Rabbi Yaakov Berav devienne le Samour, devienne celui qui nous explique que ça y est, on peut les Hadesh et ta smicha autour de lui et qu'il va pouvoir lui donner la smicha à d'autres. Donc vous imaginez ce que ça veut dire ? Comprenez-moi bien. Ça veut dire remettre des smouchim. Tant soit tu donnes la smicha à 70 personnes, vezeu, yesh Sanhedrin. Sanhedrin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une seule halakha pour tout le peuple juif. Et Rabbi Yaakov, il vient et il nous dit, pas Rabbi Yaakov Berav, Rabbi Yaakov Zerbib, il vient et il dit, et on a eu un problème. Parce que ça aurait pu marcher, mais il y a un rabbin qu'ils ont oublié de consulter. Alors, je te rassure, hein, Rabbi Yaakov, ils n'ont pas oublié de le consulter. Il y avait une vraie opposition entre les rabbins de Tzfat et les rabbins de Jérusalem. C'est-à-dire, les rabbins de Jérusalem avaient énormément de mal à accepter que Tzfat était en train de prendre la direction du monde rabbinique. Et donc, il y a un rabbin là-bas, à Jérusalem, qui était un des dirigeants du monde juif à Jérusalem, qui s'appelle Arav Levi Ben Chaviv, ou alors plus connu sous son kinouï, Amma Aralbach. Et Amma Aralbach, il vient et dit, les gars, vous ne m'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé mon avis. Or, le Rambam, il a dit qu'il faut que tous les rabbins soient d'accord. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord pour que Rabbi Yaakov Berav devienne le Samour. Voilà, terminé. Je ne suis pas d'accord. Et donc, comme il va s'opposer à Maharal Bach, eh bien, finalement, Rabbi Yaakov Berav ne sera pas véritablement accepté par tous comme étant Samour. Je dis, il ne sera pas véritablement accepté parce que Rabbi Yaakov Berav va quand même avoir le temps de l'ismor Arba Chachamim. Il va quand même donner sa smicha à quatre personnes avant que le Maharal Bach fasse entendre parler de lui. C'est qui ces quatre personnes? Eh bien, il y en a un qui s'appelle Rabbi Israël d'Ikouriel. Il y en a un autre qui s'appelle Rabbi Avraham Shalom. Un troisième dont on va parler très certainement la semaine prochaine, qui s'appelle Rabbi Moshe Mitterani. Et un autre dont on va parler dans pas longtemps du tout, qui s'appelle Rabbi Yosef Caro. Ah oui, Rabbi Yosef Caro. Rabbi Yosef Caro est le quatrième qui reçoit la smicha de Rabbi Yaakov Berav. On va voir que finalement, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas puisque les rabbins de Jérusalem vont s'y opposer. Eh bien, ça ne va pas être reconnu. Et donc, eh bien, la continuité de cette histoire de smicha, eh bien, ne va pas voir le jour. Et finalement, il n'y aura pas de Sanhédrin. Mais cette histoire avec Rabbi Yaakov Berav, on a dit, va écrire des choses incroyables. Au-delà du fait qu'il va faire ses chidushim à la chasse, il a écrit un shoot Ma'ari Berav, dans lequel, eh bien, on va voir énormément de sa shita kabbalite, dans les She'elot ou Tshuvot de Rabbi Yaakov Berav. Alors, on a dit, Rabbi Yaakov n'est pas tout seul dans l'histoire. Rabbi Yaakov, finalement, ça ne marchera pas, on a dit, mais il y a un autre rabbin, à ce moment-là, qui lui aussi arrive d'Égypte et qui va s'installer lui aussi à Tzfat. Ce rabbin-là, en l'occurrence, et c'est assez intéressant et étonnant pour le souligner, il va quand même réussir à vivre 94 ans. Et ce n'est pas du tout, le temps n'est-il pas arrivé de recréer un Sanhédrin? Mais je t'ai dit comment il faut faire. Il faut que tous les rabbins s'unissent en Israël et désignent que le Rav Cherki, c'est le Gdol Hador. Voilà, et que tout le monde soit d'accord. Et à ce moment-là, eh ben, c'est bon, le Rav Cherki devient Samour. Et il peut l'ismor Anashim Acherim. Et une fois qu'il en a mis 70 en place, eh ben c'est terminé. On a le Sanhedrin avec le Rav Cherki assis à Sanhedrin. C'est bien. Comme a aucune chance. Elle a dit aucune chance. Mais aucune chance parce que c'est le Rav Cherki ou parce que tu dis avec n'importe qui, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, nous, Bezrat Hashem, quoi. Et on est tellement pessimiste sur la capacité qu'a le peuple juif à s'unir. Mais non, on va y arriver à un moment donné. C'est de la politique. Ah, c'est une question, c'est de la politique. Le Machiav sera Samour. Réponse. C'est pas de la politique. C'est censé du moins pas être de la politique, c'est censé être de la Torah. C'est-à-dire que c'est censé être uniquement les rabbins qui acceptent de nommer un de leurs pères. Donc, normalement, ça ne devrait pas être de la politique. Et est-ce que le Mashiach, il doit être Samour? Non. Il doit être Mashiach, c'est-à-dire Mashuach Beshem Anamishra, en tant que roi, en tant que chef politique. Donc, lui, ça sera de la politique. D'accord? A priori, le Nassi Sanhedrin, il n'est pas censé être un homme politique. C'est comme tu me diras, le grand rabbin d'Israël, ce n'est pas du tout politique. C'est vrai? Bon, mais qu'est-ce qu'on n'y est pas encore? Alors, le Rav Kook, quand il a créé le grand rabbinat d'Israël, il a dit dans son discours qu'il pose ici la première pierre de ce qui redeviendra un jour le Sanhedrin. Top, nous, Bezrat Hashem. Le Rav Shtenzal avait essayé. Oui, Nachon, le Rav Shtenzal avait essayé, mais ça n'avait pas été suivi. Ça n'a pas été suivi. Gam le Rav Herzog, il avait essayé. Ça n'a pas été suivi. Donc, malasot, ça aurait pu être une très bonne chose. Le Rav Shtenzal, à mon sens, aurait très bien pu être le Nassi à Sanhedrin. Mais ça n'a pas été suivi. En grande partie, ça n'a pas été suivi parce que le Rav Shtenzal, c'était Chabad et que dans le monde Haredi, vous savez que ce n'est pas les plus grands fans de Chabad. Est-ce que le grand Rabbin d'Israël, il n'est pas Samour? Non, il n'est pas Samour. Mala Asot, le Tsaharen ou Arav, le grand Rabbinat d'Israël, il ne peut pas encore être Posek Halakha pour tout Israël. Il a déjà du mal à être accepté comme le Mara Deatra de Eretz Israël. Il n'est pas encore accepté comme étant le Posek de tout Am Israël partout. Donc, non, il n'est pas Samour. Mala Asot. Bekitsour, d'autant plus qu'aujourd'hui, le grand Rabbin d'Israël, il n'est pas du tout accepté par tous les milieux comme étant le Gadol, comme étant le patron. Et d'ailleurs, je vais te dire, même eux, ils ne se considèrent pas comme ça. C'est-à-dire que le Rav Lao, aujourd'hui, il ne se considère pas comme étant le plus grand des rabbins de sa génération. Et il le dit souvent, tu vois. Donc, c'est sûr que si lui, il ne se considère pas comme étant le patron, bah, les autres, ils ne vont pas le considérer non plus. Donc non, le grand rabbin d'Israël, malheureusement, il n'est pas... Ça n'a pas toujours été comme ça, Agave, entre parenthèses. On ne va pas faire tout un cours sur uniquement la rabbanoute, mais il faut savoir que jusqu'à la Keuna du Rav Eliyahu et du Rav Shapira, oui, les grands rabbins d'Israël étaient considérés comme les Gdolé Ador. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord avec eux, il y avait des Mahlokot, mais jusqu'à ce moment-là, tu avais des géants de parmi les géants qui étaient reconnus dans tous les milieux comme étant des géants. Rav Mordechai Eliyahu, c'est même pas un débat, et Reb Avraham Shapira non plus. Après leur Keuna à eux, il y a eu un coup un petit peu malsain qui a été mis en place par le monde Haredi, mais officiellement ils l'ont dit, quoi. Ils l'ont dit, on va vous montrer que la Rabbanout, c'est pas du tout un Mossad sur lequel on doit s'appuyer, et ils ont fait élire comme grand rabbin d'Israël Ashkenaz un rabbin que personne ne considérait comme étant quelque chose, quoi, qui s'est avéré en plus plus tard passer du temps en prison pour blanchiment d'argent, ce qui est un problème en soi quand tu es censé être le grand rabbin d'Israël. Mais enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Est-ce que le Rav Kalinowski aurait pu être? Ben, si tout le monde s'était uni et qu'on avait voulu faire de lui, pourquoi pas? Mais ça n'a pas été fait. Ça va? Donc quoi qu'il en soit, à côté de Rabbi Yaakov Berav, eh bien, nous avons un autre rabbin extraordinaire qui s'appelle Rabbi David ben Shlomo ibn Zimra, ou alors plus connu par ses initiales, Ha-Ridbaz, ou Ha-Radbaz, Ha-Radbaz, pas Ha-Ridbaz, Ha-Radbaz, Rabbi David ibn Zimra. Alors, il est très connu, pourquoi? Eh bien, parce qu'il a écrit un commentaire sur le Rambam. Mais il est surtout le Rosh Yeshiva et le Rav Beit Din du judaïsme d'Égypte. Et lui aussi va arriver à Tzfat à un moment donné dans sa vie. Alors, tout va bien. Rabbi Yaakov Ridbaz, c'est quelqu'un qui va être en machloket avec le Rambam sur pas mal de choses, il n'y a pas de problème. C'est de lui, Rabbi Yaakov Ridbaz, c'est de lui qu'on va avoir, comment dire, la permission. Dans le poulmousse avec le Rambam, vous connaissez que le Rambam il s'est opposé fondamentalement à ce que quelqu'un y reçoive de l'argent pour étudier la Torah ou pour enseigner la Torah. C'est-à-dire, pour le Rambam, c'est Chilul Hashem, tout ce que tu veux. Il y a une vidéo qui est sortie, qu'on m'a envoyée la semaine dernière, sur Torah Box, qui explique que le Kollel, ça a toujours existé, qu'il y a toujours eu des gens qui étaient au Kollel. Et c'est une vidéo de 2 minutes 20 et je me suis demandé comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir ce tour de force de dire tellement de bêtises en 2 minutes 20. C'est quand même pas mal parce qu'ils te citent le Rambam qui te dit que on peut très bien étudier uniquement la Torah si on décide de le faire et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Sauf qu'ils oublient de dire que le Rambam dans cet enseignement de Hilchot Rovel ou Mazik, eh bien, il nous dit que À ce moment-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la parnassa. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui était dans la Mehara et que Dieu il lui a donné des caroubiers et de l'eau. À aucun moment, le Rambam il a dit qu'il faut que tes impôts à la Knesset ils aillent au Kolelim. Ou alors qu'il faut qu'il y ait un donateur d'Amérique qui vienne donner pour le Kolel. Ce n'est pas ça. C'est toi qui ne demande rien à personne et qui ne prend pas d'argent de tzedaka à personne. Et Dieu, il pourvoit à tes besoins. C'est-à-dire, il te fait gagner au loto, même si tu n'as pas joué. C'est-à-dire, Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais à partir du moment où tu demandes de la tzedaka au Kolel ou à n'importe qui dans la rue, ou à la Knesset, c'est certainement pas ce que le Rambam il a dit. Quoi qu'il en soit, pour le Rambam, c'était interdit complètement d'étudier la Torah pour prendre de l'argent et d'enseigner la Torah pour prendre de l'argent. Arrive Rabbi Yaakov Radbaz et nous dit « Imkol akavod kvod Rambam, j'entends ce que tu dis, mais moi je permets que les rabbins ils prennent de l'argent pour enseigner la Torah. » Certainement pas pour étudier, mais pour enseigner. Pourquoi ? Il dit parce que moi, quand j'habitais encore en Espagne, ben le judaïsme d'Espagne, il n'y avait pas de problème. Le judaïsme d'Espagne, tous les rabbins, ils étaient médecins. Et donc, on gagnait notre argent en étant médecins. Mais le problème, c'est que maintenant, on est arrivé en Afrique du Nord. Et en Afrique du Nord, je suis déjà vieux. Je ne peux pas réapprendre un nouveau métier. Et le problème, c'est que de la médecine, je ne peux pas gagner d'argent. Parce que les gens là-bas en Afrique du Nord, ils sont idiots. Et dès qu'ils sont malades, ils vont voir un chaman, ils vont voir un leader de bonne aventure, ils vont voir des gourous, et ils viennent pas voir des médecins. Donc on ne peut pas gagner de l'argent. Ils me demandent la communauté de leur enseigner la Torah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai pas le temps, je suis trop vieux pour apprendre un nouveau métier. Donc, puisqu'ils veulent que j'enseigne la Torah et qu'ils ne me laissent pas avoir ma part d'un sac de médecin, eh ben, qu'ils me payent pour ça. Donc le Radbaz va dire on a le droit de prendre de l'argent pour enseigner la Torah. Tov, Hidush Atsum, que aujourd'hui tous les rabbins utilisent, évidemment. Il va écrire un livre qui s'appelle Magen David. Magen David, c'est un livre alpi à Kabbalah qui va nous expliquer la profondeur des lettres de l'alphabet. Et au-delà de ça, eh bien, il va tout simplement nous expliquer également dans un autre livre qui s'appelle Klale Kitsur Sefer Apelia, dans lequel il va nous expliquer quels sont les agaot qu'on a à sortir de toute la tradition kabbalique jusqu'à lui. Sans parler du livre qui s'appelle Mifrar à Emunot, dans lequel il explique sa shita kabbalistique de manière très complète. Donc Rabbi David Ibn Zimra fait partie évidemment des maîtres de la Kabbalah de cette époque-là. Mais à côté d'eux, il y a une masterpiece. Il y a celui qui va prendre une place fondamentale dans l'enseignement de la Kabbalah et dans l'influence qu'il va avoir. Il s'appelle Rabbi Yosef Taititzak. Rabbi Yosef Taititzak va être un des dirigeants, pour ne pas dire le grand dirigeant, de la communauté juive de Grèce, de Salonique en particulier. Rabbi Yosef Taititzak, comment vous expliquer à quel point il est important ? Je ne sais pas par où commencer, mais ma question, la première, c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui ? Hein, pas très connu, hein, Rabbi Yosef Taititzak. Shitata pilpul à Sefaradi. C'est-à-dire qu'il va dire aux Ashkenazim, il n'y a pas que vous qui savez pilpouler. Rabbi Yosef Taititzak, je vais te le balancer tout de suite, comme ça, direct. De père en fils, ok ? Père après fils, de génération en génération, sur 300 ans, non, attends, je raconte. Ouais, 350 ans. Il va être l'ancêtre en directe ligne d'un monsieur qui explique que ce qu'il a fait, il le tient de son ancêtre, Rabbi Yosef Taititzak. C'est qui ce monsieur ? Eh bien, Vous le connaissez, il s'appelle Binyamin Zeev Herzl. Herzl est le descendant direct de Rabbi Yosef Taïtitzak. Et il raconte que cet engouement pour la terre d'Israël, pour le retour du peuple juif, c'est ce qui passe dans la famille depuis Rabbi Yosef Taïtitzak. En d'autres termes, le sionisme moderne, c'est grâce à lui. Donc, ce n'est pas n'importe qui, Rabbi Yosef. C'est-à-dire, Rabbi Yosef Taïtitzak, d'où est-ce qu'on sait aussi qu'il est un géant? Eh bien, parce qu'il y a un autre rabbin dont on va parler juste après, qui est très, 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 très connu. Pas de problème. Très, très connu. C'est-à-dire, il y a un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Yosef Karo. OK? Et, bon, Rabbi Yosef Karo, on va en parler dans 2 secondes, mais il écrit un livre de Kabbalah qui s'appelle Maguid Mesharim. Et je vais en reparler dans 1 seconde, mais dans ce livre-là, il fait une chavruta avec un ange. Sauf que quand tu vois dans le livre Maguid Mesharim que très souvent Rabbi Yosef Karo écrit que l'ange lui a dit ce chidouche-là que je viens de t'enseigner, il faut que tu l'enseignes à Rabbi Yosef Taïtitzak, ah, tu te dis, ah bah d'accord. Donc l'ange, il pense que c'est important que Rabbi Yosef Karo il parle avec Rabbi Yosef Taïtitzak. Bah, c'est pas rien. C'est-à-dire, donc on parle de quelqu'un de fondamental. Mais c'est-à-dire, les amis Rabbi Yosef Taïtitzak nous ouvre la voie à celui dont je viens de parler maintenant, mais il y a tellement de rabbins à ce moment-là, vous savez, on peut pas vraiment, c'est dur, hein, on ne peut pas parler de tout le monde. Mais bon, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on a encore. Non, la semaine prochaine, c'est pourri, mais bon, Bezrat Hashem, on n'est pas pressé. Quoi qu'il en soit, hein, après Rabbi Yosef Taïtitzak, arrive ce rabbin que tout le monde connaît, évidemment, je n'ai pas besoin de le présenter, qui s'appelle Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, Rabotai. Qui est Rabbi Yosef Karo? Alors on a dit, Rabbi Yosef Karo est un des quatre qui a reçu la smicha. Ce qui veut dire que lui, il va la donner aussi à d'autres. Encore une fois, malheureusement, ça ne va pas être suivi, donc le mouvement ne va pas prendre, il n'y aura pas de Sanhedrin. Mais Rabbi Yosef Karo se comporte comme si il était nasi à Sanhedrin. L'idée de d'écrire le Shulchan Aruch, c'est une idée sanhédrinique. De dire que depuis le Rambam, ça fait quand même 300 ans, il n'y a pas un livre qui réunit toute la Torah du peuple juif, ben, il faut le faire, et ça, c'est une dimension de sanhédrine. Une dimension de se dire, j'ai besoin d'unifier Am Israël autour de la halakha. Bon, là, je voudrais juste 2 secondes venir à la rescousse des Ashkénazim. Comment ça se fait que les Ashkénazim n'ont pas accepté le Shulchan Aruch? Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez pas l'histoire? Ah, je vous raconte l'histoire. Donc nous sommes au tout début du XVIe siècle. Rabbi Yosef Karo écrit son Bet Yosef, pas le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, c'est-à-dire la version longue du Shulchan Aruch. Il écrit le Bet Yosef. Au même moment, en Pologne, à Cracovie, il y a un autre rabbin un peu plus jeune qui a la même idée d'écrire un livre de Halakha qui résume toute la Halakha. Et il va écrire son livre qui s'appellera Darei Moshe, les chemins de Moshe. Ce rabbin s'appelle Rabbi Moshe Isserles, plus connu sous le nom Harema ou Arama. On va pas débattre sur comment il faut prononcer. Et le problème, c'est qu'au milieu de l'écriture de son livre, eh bien, quelqu'un amène à Rabbi Moshe Isserles le Bet Yosef. Parce que lui, il est en train d'écrire, mais Rabbi Yosef Karo a fini déjà son Bet Yosef. Et une fois que le Réma reçoit le Bet Yosef, il tombe en dépression. Il dit: je ne sers à rien. Dans la vie, je ne sers à rien. Il y a un rabbin qui est plus vieux que moi, qui habite en Eretz Israël et qui a déjà fini le boulot. Je ne sers à rien. Et donc, pendant 3 jours, il reste sur son lit et il déprime. Et au bout de 3 jours de tfilot, eh bien, il se remet d'aplomb et il dit à Dieu, alors atzaltani beracha, barcheni gamani avi. C'est ce que Esav avait dit à Yitzhak. Quoi, tu n'as qu'une seule bracha à donner, tu l'as donné à Yaakov, bénis-moi moi aussi. Et à ce moment-là, eh bien, il se remet d'aplomb, il termine son livre d'Achei Moshe, et il se rend compte qu'en fait, ben, il y a énormément d'endroits avec lesquels il n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef Karo. Et pourquoi il n'est pas d'accord? Eh bien, parce que Rabbi Yosef Karo, il faut le dire, a fait un truc pas cool pour l'Eshken. Rabbi Yosef Karo vient dire la chose suivante. Je veux résumer toute la halakha. Donc, je ne suis pas moi en train de faire des pilpoulim. Je vais prendre dans tous les sujets les 3 grands piliers de l'enseignement, que sont le Rif, Rabbi Yitzhak Elfasi, le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, et le Rosh. Et à chaque fois, je vais prendre la majorité des 3, et ceux qui seront la majorité, ce sera ça la halakha. Le problème, c'est que le Rif et le Rambam sont du même Bet Midrash chez les Sfaradim, et le Rosh est l'Ashkenaz de service. Résultat des courses, dans 95% des cas, ben, ils sont à 2 contre 1. Et donc, Rabbi Yosef Karo, avec sa technique, a enlevé la halakha Ashkenaz et 1000 ans, ah non, pas 1000 ans, j'exagère, 500 ans de tradition Ashkenaz balayée. Résultat des courses, les Ashkenazim, ils ont eu du mal à accepter Rabbi Yosef Karo et le Shulchan Aruch. Ceci étant dit, nous, on n'est pas là pour parler du côté halakhique de Rabbi Yosef Karo, on est là pour parler de son côté Gdol HaMekoubalim. Et effectivement, il écrit son livre Magid Meisharim. Magid Meisharim, de quoi on parle? Magid Meisharim, c'est tout simplement le dévoilement du Malach. Et voilà ce qu'il écrit Beleil Shavuot, Rabbi Yosef Karo. Zachinu. Il écrit dans l'Aïd Galout qu'il a eu Beleil Shavuot. C'est-à-dire, regardez. Voilà ce qui se passe. Zachinu, Borenu venishma et kol amedaber befia chassid, Rabbi Yosef Karo. Celui qui écrit, c'est Rabbi Shlomo Alkabetz. Ce sont des copains. Il dit, on a vu la façon dont Rabbi Yosef Karo s'est mis à parler. Kol gadol bechitu chotiot. וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים, והיה הנעימות רב, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא היה רוח באיש לייסה עיניו ופניו לראות מרוב המורה. Ça, c'est le moment où, pour la première fois, Rabbi Yosef Karo reçoit גילוי אלוהי, גילוי של שם השם. Gilouï chez la Malach. Et donc, tous les gens qui étaient là, ils ont dit, oh, wow, wow, c'est qui celui-là? Dans son livre, Magid Meisharim, c'est en fait donc sa chavruta avec ce Malach. Et le Magid va promettre à Rabbi Yosef Karo qu'il va mourir al Kiddush Hashem. Et ainsi, il écrit dans Magid Meisharim. J'ai eu l'honneur de monter en Eretz Israël, je traduis directement, et ensuite, j'aurai le mérite, tel que m'a dit le Maguide, de mourir al-Kiddush chez Moa Gadol. Et j'aurai l'honneur, si déjà je dois me faire tuer par les goyim, que ce soit Befaresia ve'al-Kiddush Hashem. Au final, c'est ce qui s'est passé. Au final, c'est ce qui s'est passé. Rabbi Yosef Karo a été tué à Val devant toute la communauté juive et il a pu être Mekadesh Shem Shamaim Ad Asof. Mes amis, on vient de sonner à ma porte. Et pour que ça ne ressonne pas 37 fois, je vais voir qui c'est de ce coup. C'est bon. Tov. Alors, puisqu'on parle de goyim qui font des problèmes au judaïsme et des mekoubalim et de cette époque-là, eh bien, nous arrivons à notre dernier personnage. Un personnage incroyable, haut en couleur, mais aussi très haut en marloquette. Et là, je tiens à vous dire, ça me fait du mal de parler de lui, mais ça va me faire du mal de parler du Arizal aussi, pareil. Parce qu'on va parler d'un homme qui est mort à 32 ans. J'en ai 37. Et je ne connais rien. Et lui, je vais parler de lui. Donc, je me dis où on est. Où on en est aujourd'hui, les copains. Mais enfin bon, je parle d'un homme, rien ne le destinait, si on parlait en occidental, rien ne le destinait à être Migdolé à Olam. Parce qu'il est né Goy. Comment ça, il est né Goy ? Mais oui ! En fait, il n'est pas vraiment né Goy, il est né d'une famille de Anoussim. Il fait partie de ces familles d'Espagne et de Portugal qui se sont converties au christianisme sous les pressions d'Isabelle la catholique et après du Portugal et de l'Inquisition. Et donc, notre ami fait partie de cette famille de Anoussim. Et comment faire ? Comment faire ? Il va grandir en tant que Anous et il n'y a pas de problème. Et il sera même le secrétaire particulier du tribunal du roi Manuel Ier, roi du Portugal. Il habite à Lisbonne et il est baptisé, tout ce que tu veux. Et il s'appelle Diego Pires. Alors Pires, pas Robert Pires, le joueur de football, mais Diego Pires. Tov, nous, Diego Pires, Bémet, c'est ça que tu me parles. Non, c'est là à ma bite. Rabbi Moshe Mitterrani, c'est on a dit la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, notre Diego va rencontrer là-bas à Lisbonne un monsieur. Ce monsieur s'appelle David Areouveni. David Areouveni est un explorateur. David Areouveni est un mec qui se balade dans le monde entier. Seulement, lorsqu'il arrive et qu'il rencontre notre Diego, eh bien, il va commencer à lui parler. Il lui parle du judaïsme. Il lui parle d'Eretz Israël. Il vient d'Eretz Israël. Il lui parle des communautés juives qui sont dans le monde entier. Là où il a été, il a vu des communautés juives. Et lorsque David Areouveni finit son bicour au Portugal, bicour qui va durer 2 ans, eh bien, notre Diego décide que c'est terminé. Il ne peut pas renier son identité et donc il revient au judaïsme. Il revient au judaïsme, va s'auto-britmiler direct et s'enfuit en Macédoine. Et oui, parce que maintenant qu'il devient un juif qui a retrouvé son identité, il va être poursuivi par l'Inquisition et mis à mort. Donc, il s'enfuit en Macédoine. Et lorsqu'il arrive en Macédoine, eh bien, il va commencer à se rattacher. À se rattacher à quoi ? Eh bien, à son identité. Il étudie. Il habite dans la ville Bitoula, chez Macédoine. Et là-bas, eh bien, il écrit le livre qui s'appelle « Sefer Améphoar ». Mais attendez, 2 secondes. Comment il a fait ? Comment il fait ? Pour connaître des choses de Kabbalah, des choses de Torah. Le mec, il y a 2 minutes, il était goy. Alors oui, David Areouveni, qui était un Talmid Chacham, il lui a appris des choses. Mais ça ne suffit pas. Ben non, tu as raison, ça ne suffit pas. Quand il arrive en Macédoine, il fait des allers-retours incessants à Salonique. Et là-bas, à Salonique, eh bien, il étudie avec un certain Rabbi Yosef Taititzak. Vous vous rappelez, on a parlé de lui il n'y a pas longtemps. Bekitsour, il va changer son nom également. Et il devient Rabbi Shlomo Molcho. Rabbi Shlomo Molcho, Molko, comme on dira en français, Rabbi Shlomo Molko, eh bien, va non seulement devenir quelqu'un qui est très connu, mais qui est très respecté. Finalement, Rabbi Yosef Karo va l'appeler dans le Maguid Mesharim, autant le Malach, il a dit à Rabbi Yosef Karo qu'il y avait certains chidushim qui devaient enseigner à Rabbi Yosef Taititzak, autant Rabbi Yosef Karo va appeler Rabbi Shlomo Molcho, Shlomo Bechiri. Shlomo, celui que j'ai choisi. En d'autres termes, Rabbi Shlomo Molcho, Molko, aurait dû devenir le successeur de Rabbi Yosef Karo. Donc vous comprenez de qui on parle. Alors, très vite, eh bien, il va s'occuper d'un truc. Il va s'occuper de calculer l'année de venue du Mashiach. La notion messianique est quelque chose de très très important chez lui, et toute la Torah pour lui doit être tournée vers le messianisme. Évidemment, tous ceux qui vont être les anti-Rabbi Shlomo vont dire que là, il montre qu'il est resté chrétien. Que toute cette influence messianique, c'est l'influence chrétienne. Moi, je me suffis du fait que Rabbi Yosef Karo l'a choisi comme étant son successeur, que ça me va, hein, a priori. Besofo shel davar, il y a un homme qui s'appelle Rabbi Avraham ben Hanania Yagel, qui écrit à propos de Rabbi Shlomo Molcho un truc incroyable. Il dit Vehu lo yada sefer, vaya doresh berabim bedvarim atikim, sodot mikabala, vekatav sefer katzar midvarav, liot leed michochmato asher kana keref ayin, ayin lo ra'ata. Il dit les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Il dit des trucs, et dans son livre, c'est des sodotes de Kabbalah incroyables qui se basent sur des secrets très anciens, mais il n'a jamais étudié, il ne connaît aucun livre. Alors comment il connaît tout? Ce n'est pas lui qui a donné la Hashra à Rabbi Yosef Karo de mourir en Kiddush Hashem. Alors, bon, d'abord, mais il ne faut pas le dire comme ça. C'est-à-dire que Rabbi Yosef Karo, il aurait préféré ne pas se faire tuer. Il aurait préféré vivre encore plus longtemps et ne pas mourir. C'est-à-dire, donc ce n'est pas la Hashra de genre comme si c'était un kiff de se faire tuer. Mais si déjà je dois mourir de manière violente, alors autant que ce soit Al-Kiddush Hashem. Mais effectivement, Rabbi Shlomo Molcho va finalement être rattrapé par l'Inquisition. Il sera rattrapé par l'Inquisition et comme il est revenu au judaïsme, eh bien, finalement, quand il sera rattrapé, il sera condamné à mort et sera brûlé Al-Kiddush Hashem. Et il dira, quand on lui proposera une dernière fois de se convertir, de se reconvertir au christianisme pour sauver sa vie, alors il dira « Alasher italachti badatai, libi mar vezoef, ve'ata ketov be'enechem ta'asu, ve'nafshi tashuv el beit avia b'ne'ureha, ki tov az me'ata. » Il dit « Jamais de la vie, je me reconvertirai au christianisme, et si je dois mourir, eh bien enfin je serai en plénitude dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. » Beaucoup de gens, à l'époque de Rabbi Shlomo Molcho, parce qu'il était complètement tourné vers la notion messianique, eh bien, on commençait à penser que peut-être c'était lui, le Mashiach. Mais finalement, il va vivre que 32 ans et n'aura pas le temps de se faire connaître plus que cela. Et donc finalement, eh bien, il restera dans le cœur de ceux qui l'ont connu, comme Rabbi Yosef Karo, comme étant celui qui aurait pu amener quelque chose, mais qui malheureusement a été pris avant l'heure. Aujourd'hui, eh bien, il nous a quand même laissé plusieurs livres. Sefer HaMefoar, on a dit. Sefer HaMefoar, c'est sa Shita Kabbalite et son décompte de quand va venir le Mashiach. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Chayat Kaneh, qui sont des igrotes, si on veut. Et il y a également des ktavim, c'est des likutim qu'aujourd'hui on a, qui s'appelle Kitve Rabbi Shlomo Molko, mais c'est pas, ça n'a pas été écrit en mode livre. C'est ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, on retrouve sa Shita Kabbalit là-dedans. Et tout ça nous amène à le premier tiers du XVIe siècle, qui est la période où à Tzfat, eh bien, ça bouillonne de Gdolé Olam, ça bouillonne de Mekoubalim, qui vont amener à l'avènement du Harizal. Mais pour arriver au Harizal, il faudra passer par des gens comme le Ramak, comme Amabit, comme Rabbi Shlomo Alkabetz. Et donc, c'est tout cela qu'on évoquera la prochaine fois. Et c'est parti pour les questions. On va ouvrir le micro.
Arabe, le Herzl était séfarade alors.
Herzl était séfarade à 100%. Je t'invite à regarder sur mon YouTube un cours qui s'appelle Herzl, le grand séfarade.
Ok.
Attends, il y a une question qui est apparue, mais je ne l'ai pas lue.
Hop, j'ai une question, je peux poser
deux secondes. Il y a marqué, à travers toutes ces générations de kabbalistes, est-ce que c'est une même âme qui voyage à travers les générations? Non. Non, il y en a plusieurs. Oui.
Donna Grazia Nassi.
Ah, oui.
Elle était la tante de qui? Le nom, mais vous devrez...
De Don Yosef Nassi, duc de Naxos et premier ministre de l'Empire ottoman.
Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a fait à part de retirer les taxes aux Juifs?
Non, mais t'as pas compris. C'est elle qui susurre à son neveu tout ce qu'il faut faire. C'est elle qui met l'argent pour acheter la ville de Tibériade. C'est en gros, c'est elle qui porte le pantalon.
Mais qui est comment s'appelle son neveu, vous m'avez dit?
Mais je viens de te dire. Don Yosef Nassi.
Yosef Nassi. Vous n'avez pas parlé de celui-là?
Non. Ben, c'est un homme politique, des hommes politiques.
Ce n'est pas un kabbaliste.
Non, ce n'est pas un rabbin non plus.
Ah, d'accord.
Il y a un musée.
Il est représentant de quoi?
Il est représentant de lui-même.
Non, il est c'est un politique de qui? Représentant de qui?
Je répète, premier ministre de l'Empire ottoman.
Ottoman. Ben, j'ai du mal à
suivre. Il n'y a pas de problème.
C'est tout des nouveaux.
Oui, Yacov.
Yacov, ton micro.
Ouais, moi, c'est par rapport à... J'ai écrit tout à l'heure dans le chat. J'ai lu que dans un livre, qu'il y avait une autre Girsa, une autre version qui disait que les Smuchim, les quatre rabbins Smuchim par Rabbi Kevberav, c'était à le Maran, le Mabit, Rabbi Yosef Sagis et le Ramak.
Est-ce que vous connaissez ces versions? Non, ce n'est pas à la place. Il y a une Girsa qui dit qu'il y a eux aussi.
Ah, en plus?
En plus.
J'ai lu en plus, à la place des autres. Ah, c'est en plus.
Moi, j'ai entendu en plus, mais en vrai, ça ne change pas grand-chose. Parce que, comme on a dit, ça ne marchera pas. Oui.
Je vais te poser une question. Vous m'entendez?
Oui.
Oui, bonjour, Shalom. C'était par rapport aux âges des kabbalistes. On remarque qu'il y a beaucoup de kabbalistes qui décèdent jeunes dans la période de 30-40 ans. Est-ce que ça a un sens par rapport au fait qu'ils ont accumulé tellement de connaissances et de savoir en peu de temps et qu'ils arrivent justement à pondre des livres extraordinaires? Est-ce que ça a un lien avec justement le fait que leur vie est courte parce qu'ils ont beaucoup de savoir?
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est un trop plein de savoir et que donc il n'y a plus de place dans la boîte crânienne et que donc elle explose? Je ne sais pas. Je dirais simplement que pour la Harizal, c'est sûr, parce que lui, il le dit. Qu'il sait que le fait de dévoiler des secrets, eh bien, c'est ça qui va lui faire mourir jeune. Ça, c'est une chose. Et Chutzmizé, rappelez-vous que pour être kabbaliste, on te dit qu'il faut être Ben Arbaïm. Il faut être âgé de...
40 ans.
Ben non, justement pas. C'est-à-dire qu'il faut être Ben Arbaïm Labina. Mais tu peux être Ben Arbaïm Labina quand tu as 20 ans.
Oui.
Ce n'est pas une question d'âge. Donc, effectivement, il y a beaucoup de kabbalistes qui sont morts jeunes, mais encore une fois, ce n'est pas du tout la majorité. Aujourd'hui, on a cité 5 rabbins. Parmi eux, il y en avait un qui avait 94 ans et les deux autres, ils étaient dans les années 80 de leur vie. Donc, ce n'est pas tous les rabbins qui sont morts jeunes. Mais effectivement, il y en a. Et je ne peux pas te dire pourquoi ils sont morts jeunes.
Alors, question de Meïra.
Merci.
Oui, Arav. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, quelle valeur ça a aujourd'hui la smicha? J'entends autour de moi pas mal de rabbins qui ont su smicha. C'est très courant, on en voit plus.
Ah non, non, mais aujourd'hui, la smicha d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. La smicha aujourd'hui, c'est simplement quand tu as terminé les examens du séminaire rabbinique.
Donc, ça n'a pas de valeur, pratiquement.
Non, enfin, ça a la valeur qu'on lui a donnée. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre de te faire employer comme rabbin de ville ou de quartier. Ou machin. Aujourd'hui, la plupart des rabbins de communauté, ils n'ont pas forcément la smicha du séminaire rabbinique, ou alors ils l'ont, mais ce qui est plus important à leurs yeux, c'est la smicha qu'ils ont reçue de leur maître. Parce que finalement, l'examen de la rabbanoute, oui. C'est on étudie pendant le temps qu'on étudie, on étudie en fait du par cœur des halakhot, et après tu montres un examen de connaissance. Donc c'est important, parce que tu ne peux pas être rabbin si tu n'as pas de connaissance halakhique, évidemment, mais ce n'est qu'un examen de connaissance. Or, être rabbin, ce n'est pas seulement avoir des connaissances, parce que pour ça, tu as le Rav Google.
Et quelle était la smicha d'avant? C'est quoi la smicha d'avant?
La smicha d'avant, c'est comme ça a toujours été. C'est-à-dire que l'élève, il étudie chez son maître. Et dès que son maître, il pense que ça y est, il est prêt à voler de ses propres ailes et à prendre une communauté, et à diriger machin, alors où son maître?
Ah ben, c'est comme aujourd'hui, ceux qui ne font pas la rabbanoute, qui sont rabbins. Je dis ça parce
aujourd'hui, quelqu'un ou qui a fait la rabbanoute ou qui ne l'a pas fait, mais qui a été l'élève de son maître et son maître lui a dit « c'est bon, tu peux y aller », alors ça ressemble à la smicha de l'époque. Ce n'est pas la smicha de l'époque parce que la smicha de l'époque, c'est en droite ligne depuis Moshe Rabbeinu, mais ça y ressemble. Il est évident, tu comprends bien que des personnages comme le Rav Ovadia Yosef, par exemple, ils n'ont pas passé un examen de connaissances. C'est-à-dire, ils avaient les connaissances et leurs rabbins ont vu qu'à un moment donné, « c'est bon, tu peux y aller », et ils ont dit au Rav Ovadia « sois Dayan Oker ».
Oui.
Et... aujourd'hui c'est plus c'est quand
oui aujourd'hui c'est bien plus industriel bien sûr bah aujourd'hui tu vas quand tu rentres dans l'examen de la rabbanoute c'est tu sais c'est des fois c'est même à Binyané Aouma t'as des c'est un examen du bac quoi t'as des tables les unes à côté des autres et chacun il a son crayon et sa feuille d'examen et il fait son examen nous. Le plus drôle, c'est quand tu vois des pompes. C'est des
ils trichent.
Quand tu vois des gens qui ont des petites dépenses bêtes.
Donc ils sèchent.
Elle est permise aux femmes, la Kabbalah.
Elle est permise aux femmes. Alors, je ne sais pas si on peut dire elle est permise, mais elle est permise aux femmes, la Kabbalah, comme toute la Torah. Ça n'existe pas une Torah qui est interdite aux femmes.
Non, mais il y a une tendance, Arav, de dire que les femmes ne sont pas censées étudier la Gemara, ne sont pas censées étudier la Mishnah, que Tehilim Zetov.
Regarde, on pourrait trouver énormément de citations dans le Talmud pour dire que les femmes, Zelo Mashu Mashu au niveau de la Torah, et autant de citations pour dire que plus une femme elle est érudite et plus c'est fantastique. Je vais te dire la chose suivante de manière la plus simple possible. Une fois, j'ai donné un cours, je donne un cours chez le Rav Yehuda Ben Ishai le mardi matin, et de 8 à 10, je donne le cours dans le Beit HaMidrash, et de 9 à 10, je donne le cours dans la cuisine. Parce que de 9 à 10, il y a les femmes qui arrivent pour leur cours de femmes et qui étudient dans le Beit HaMidrash, enfin dans la synagogue. Maintenant, comme leur cours à eux avait commencé au niveau ma sortie avant que moi je commence mon cours. Alors le Rav, il nous a dit, écoutez, on ne va pas les déloger, elles étaient là avant que vous fassiez le cours. Vous êtes en cuisine. Eh bien, très bien, très bien. Et un jour, il y a un des hommes qui s'est énervé et a dit, mais ce n'est pas bien de leur enseigner comme ça aux femmes. Au final, elles vont savoir plus que nous.
Bien que ça, Rav, comme ça, que l'homme enseigne la Torah dans la maison.
Mais Nbaya, donc ça veut dire qu'elle a appris, donc elle est. Eh ben, apprends plus, toi. Quoi? Le but, c'est qu'on soit le plus idiot possible ou le but, c'est qu'on soit le plus racham possible. Donc, si ta femme, elle étudie et que tu as peur qu'elle va te dépasser, eh bien, étudie plus. Makara.
Toda Rabba Fison. Shavua Tov.